dernière instruction de la journée, pour vous et pour moi. Donc là, on avait intitulé ça, je crois, combat spirituel. En fait, je voudrais vous donner quelques règles de vie spirituelle. Bon, des règles que beaucoup connaissent déjà, mais dans une retraite, c'est toujours pareil. Il y a les anciennes, qui n'ont plus grand-chose à apprendre. Et puis, il y a les nouvelles qui découvrent tout. Alors, il faut dire des choses pour tout le monde. Alors, il y a des choses qui concernent plus les anciennes et d'autres qui concernent plus les nouvelles. Mais je pense que ça fait toujours du bien qu'on nous rappelle un peu ces règles de base. Parce que si on les connaît dans notre tête, malheureusement, en pratique, on les oublie parfois un petit peu, hélas. Alors, dans les règles du discernement des esprits, parce que c'est ce dont je vais parler au moins au début, puis après on verra, si j'ai le temps, je parlerai peut-être d'autres choses, mais je préfère pas trop annoncer, parce que si je suis pris par le temps, j'arrêterai. Donc la première chose, donc quelques règles de discernement des esprits, donc les règles de base, qu'il faut toujours avoir en tête, à la fois pour nous-mêmes et puis aussi pour les autres, des règles qui peuvent nous servir de repère. Donc première règle qui concerne, qui ne vous concerne pas maintenant, je pense, j'espère. Les règles qui concernent les personnes qui vivent dans le péché grave d'une façon habituelle. Donc, d'une façon générale, donc, en ce moment-là, le démon rassure ces personnes-là et le bon ange aiguillonne. Il titille. Donc, d'abord, le démon rassure le pécheur. Le pécheur, lorsqu'il vit dans le péché d'une façon constante, eh bien, le démon va le rassurer. Tu crois bien que c'est pas si grave que ça, tout le monde le fait, c'est bien permis par la loi, or ce qui est légal est moral, il faut quand même vivre avec son temps, on n'est plus au Moyen-Âge, puis qu'est-ce que les autres vont dire de toi si tu te convertis, enfin tu vas te faire traiter de bigote, faut quand même pas exagérer. Donc le démon, normalement, il rassure, et puis il dira, bon, maintenant tu seras assez tôt de te convertir à l'heure de la mort, la vie c'est si court, donc il vaut mieux en profiter quand même. Donc le démon cherche à rassurer la personne qui vit dans le péché. Et par contre, le bon ange, lui, il aiguillonne. Donc il va toucher l'âme et la troubler. Tu ne te rends pas compte ce que tu deviendrais si tu meurs dans cet état. Tu vois pas que c'est honteux quand même de vivre dans le péché. Tu vois bien quand même que c'est pas l'idéal d'une vie. L'homme est quand même plus qu'un animal, donc il faut quand même essayer de vivre spirituellement. Et puis qu'est-ce qui te reste après ce moment de plaisir? Reconnais quand même que la voie de la vertu est quand même préférable à celle du vice. Donc le bon ange aiguillonne. Et là où on le remarque bien, c'est pour les personnes qui se convertissent, c'est souvent le cas. Une personne qui se convertit devient la bonne conscience ou la mauvaise conscience, c'est pas comment on parle, des voisins et de la famille. La personne qui se convertit, elle est toute heureuse, parce qu'elle a trouvé le bon Dieu, et même si elle raconte uniquement, d'une façon très calme, très posée, son expérience autour d'elle, eh bien, toutes les personnes autour ont l'impression d'être agressées par la personne qui vient de se convertir, tout simplement parce qu'elle transmet son expérience. Et là, je vous raconte une petite anecdote qui est qui va un peu dans le même sens, qui s'est produite il n'y a pas très longtemps. Donc à la fin de l'année, on est allé au pèlerinage de Chartres Paris avec les séminaristes le dernier jour, le lundi. Alors on est allé en car, donc 30 soutanosaures dans le car, c'est sûr, ça impressionnait un peu le chauffeur. Donc déjà, alors on commence bien sûr par la prière de la route, et puis après ça, une fois qu'on a fait la prière de la route, eh bien c'était le matin de bonheur, donc... On a voulu dire l'office de prime dans le car. Et puis après, bon, bah maintenant on va rester en silence pendant une demi-heure, parce qu'on veut quand même faire notre demi-heure d'oraison, comme il se doit. Donc on fait une demi-heure d'oraison. Et puis après, en ce moment-là, bah, on va chanter l'Angélus, quoi. Donc c'était déjà bien, là, une bonne heure, là, tranquille. Et le chauffeur, lui, pendant ce temps, donc en silence, en train de conduire. Et puis, une fois que les prières sont terminées, le chauffeur qui se tourne vers moi, alors que je ne le connaissais pas, il ne m'avait rien dit jusque-là, Il me dit, bah oui, vous savez, moi je peux pas assister à la messe tous les dimanches parce que je travaille. Je dis, bah, je suis désolé, mais enfin, conduisez à droite, enfin, Paris c'est tout droit. Je vous ai rien demandé, moi. Donc visiblement, le fait que de se retrouver avec des séminaristes en train de prier, c'était... Il était vraiment très, très remué intérieurement, quoi. Bah, vous comprenez, dans mon métier, etc., oh, c'est bien, je pourrais peut-être pratiquer davantage et tout. C'était vraiment très, très amusant. Et c'est vrai que parfois, bon, c'est pas fréquent, mais ça arrive, que la seule présence d'une soutane aussi, c'est pareil, donc entraîne des réactions chez les autres. C'est la première, une des premières années de mon ministère. Quand on était dans l'ancien prieuré de Lyon, on était pas très loin du Rhône. Bon, c'était assez bruyant, disons, le prieuré était bruyant. Donc, le seul endroit que j'avais à peu près calme, c'était d'aller au bord du Rhône réciter mon bréviaire. Donc j'allais réciter mon bréviaire. Mais au bord du Rhône, bon, il y a un petit peu tout le monde qui passe quand même. Et là, il y avait un monsieur qui faisait son jogging comme ça, et puis bon, qui était en petite tenue par rapport à la mienne en tout cas. Et visiblement, alors que moi j'étais pris dans mes psaumes, il se tourne vers moi et puis commence à m'agresser. Il n'y a pas idée de se promener dans une tenue pareille ici. Enfin, je dis, bah, monsieur, allez vous rhabiller. Et là, c'est pareil, moi je ne lui avais rien demandé, moi, ce monsieur. Mais la seule présence d'une soutane, intérieurement, ça démarre. Donc le bon ange aiguillonne, c'est comme ça. Donc ne soyons pas surpris quand on se convertit et puis que, même sans qu'on dise grand-chose à notre entourage, si les gens sont remués intérieurement, on est le bon ange, la bonne conscience ou la mauvaise conscience des personnes qui nous entourent. Alors donc ça c'est les règles, si vous voulez, donc à l'égard des personnes qui vivent dans le péché. Donc le démon rassure et le bon ange aiguillonne. Alors maintenant, à l'égard des personnes qui désirent bien faire, qui se sont convertis, qui désirent maintenant plaire au bon Dieu, alors là, le démon et le bon ange vont agir en sens inverse. Donc ça va être les règles que je vous ai données tout à l'heure vont se retrouver dans l'autre sens. À savoir que maintenant, le bon ange va apaiser l'âme. Tout à l'heure, c'était le démon qui apaisait l'âme. Maintenant, c'est le bon ange. Quand une personne vit correctement, eh bien, le bon ange apaise l'âme. Et il lui montre qu'elle est dans le bon chemin, il l'encourage à progresser, à chercher à grandir dans l'amour de Dieu et du prochain. Et elle lui montre que la sainteté est possible, et donc elle l'encourage. Et par contre, alors là, le démon, maintenant, va troubler cette âme pour arrêter son avancement. Donc l'âme va se retrouver dans la tristesse. Elle va tout voir en noir, elle va l'impression que Dieu l'a abandonnée, qu'elle n'arrivera jamais, qu'elle est perdue, qu'elle va se demander si elle est en état de grâce, est-ce qu'elle est sûre d'être sur le droit chemin, est-ce qu'elle s'est bien confessée, Donc elle se pose mille et une questions. Alors normalement, là, le grand principe, c'est si vous vivez à peu près chrétiennement, enfin correctement, toutes les questions qui vous traversent l'esprit, qui c'est si et peut-être que et si jamais, ça, c'est pas du bon ange, ça c'est le démon. Parce que le bon ange, quand une personne vit correctement, il éclaire l'âme. Donc il lui dit, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, alors peut-être qu'on est troublé, mais on sait pourquoi. Et on sait qu'on n'a pas agi comme on aurait dû agir. Donc c'est un trouble, mais c'est un trouble qui éclaire malgré tout, qui est salutaire et qui nous montre, qui met le doigt sur la plaie. Donc ça c'est le signe que c'est le bon ange qui nous éclaire. Mais si on est troublé et que finalement... On se replie sur nous-mêmes, eh bien, ça, c'est pas du bon Dieu, ça. C'est le démon. Donc, on rentre pas dans le jeu du démon. Quand le démon nous parle, on l'écoute pas. Donc, on dit, ah, qui c'est si ? Ah oui, peut-être qu'il a raison, en effet. Ben non, on n'écoute pas le démon. On ne discute pas avec le démon. Ça, c'est une autre règle. Et il faut savoir que toutes les âmes, enfin, plus ou moins, à certains moments, peuvent être troublées comme cela. Le démon ne veut pas nous voir avancer, donc il va nous troubler de différentes manières, et il faut le savoir à l'avance. Ou également aussi, il va nous donner des raisonnements faux, quoi. On va dire, bah oui, c'est prêtre, ce sont des bons prêtres, ce sont schismatiques, etc. C'est le signe, c'est toujours, c'est le démon. Donc, et qui c'est si, et peut-être que, et si jamais, donc ça c'est la, chaque fois que vous avez ça dans votre tête, vous dites, ça, c'est pas le bon Dieu qui me parle. Alors, comment réagir au milieu de ces épreuves? Bien sûr, quand dans les premières règles, la réaction, bien sûr, la personne qui vit dans le péché et qui veut s'en sortir, bien sûr qu'il faut écouter la voix du bon ange. Donc, quand le bon ange aiguillonne, eh bien, à ce moment-là, il faut, si le bon ange reproche les désordres, il faut bien sûr chercher à se corriger. Ça, c'est bien sûr la première règle. Et quand vous avez déjà une certaine vie spirituelle, donc, et que vous connaissez ces périodes de troubles, eh bien, donc, il ne faut pas rentrer dans le jeu du démon. Donc, on ne doit pas prendre, c'est l'abbé Laurence qui nous dit ça au séminaire, il nous le rappelait souvent, on ne doit pas prendre sa température 36 fois par jour. Donc, il faut penser, ne penser à soi ni en bien, ni en mal, ni en bien pour éviter la vanité, ni en mal pour éviter de se décourager. Donc, il faut bien faire son devoir, c'est tout, mais... Ne pas être toujours replié sur soi, c'est pas ce que le bon Dieu veut. Et ça, c'est un peu une maladie moderne, c'est vrai. On est peut-être plus fragile psychologiquement, donc on est toujours en train de revenir sur soi pour essayer de savoir un peu où on en est. Mais c'est pas bon. Et puis ensuite, il ne faut pas non plus être troublé d'être troublé. Il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres, qui se troublent plus facilement. Parce qu'après, alors, on s'en sort plus non plus. Hein. Donc il faut aussi savoir accepter ces troubles même que le bon Dieu permet. Donc si on doit être patient vis-à-vis des autres, on doit aussi être patient vis-à-vis de soi-même. Il faut avoir cette patience d'accepter ces misères, de les reconnaître. Mais par contre, en période de troubles, alors il ne faut pas non plus se décourager, et donc il faut essayer de continuer à rester fidèle dans ses prières. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une autre règle. Vous voyez. En période de désolation, on ne change pas ses résolutions. Je suis troublé, donc j'arrête tout. Non, je suis troublé, donc je continue. Je continue parce que je n'ai pas les lumières pour savoir ce qu'il faut que je fasse. Quand je serai plus troublé, alors là, j'aurai les lumières. Donc là, s'il faut que je change de cap, en ce moment-là, je saurai ce qu'il faut que je fasse. Mais maintenant que je suis troublé, je n'ai pas la lumière. Donc ce n'est pas le moment de changer. Ça, c'est une règle importante. Quand vous êtes troublé, il faut attendre que ça passe. Après la pluie, vient le beau temps, donc quand il fera beau, on verra. Quand vous êtes dans le brouillard, eh bien, c'est pas le moment de changer de cap, hein, parce que s'il y a un précipice à côté, vous pouvez vous casser la figure. Donc quand le brouillard, en général, on stoppe, on s'arrête, et puis on attend après que le nuage s'échappe, et puis en ce moment-là, on voit mieux s'il y a une direction à changer, s'il faut la changer. Mais normalement, donc en période de désolation, on ne change pas ses résolutions. Et puis il est bon aussi, en ce moment-là, de s'ouvrir à un prêtre, à son directeur spirituel, si on en a un, sinon à un prêtre. Parce que le démon, il a horreur d'être dévisagé, donc il suffit parfois de parler au prêtre pour que ça s'en aille, pour que les tentations s'en aillent. Parfois ça amuse les jeunes prêtres, souvent, quand des personnes viennent vous voir, et puis la personne parle pendant une demi-heure, et le prêtre écoute, hein, et puis la personne à la fin dit « Ah, vous m'avez fait beaucoup de bien !» Très bien, tant mieux, c'est l'effet du bien de parler. C'est comme ça. Mais rien que de parler, parfois, ça soulage. Donc, c'est bien. Donc, ne pas hésiter à s'ouvrir en période de difficulté. Parce que justement, quand on est seul, si on ressasse, c'est pas bon. Donc, évitez toujours de se décourager. Vous connaissez peut-être, oui, bien sûr, vous connaissez cet épisode, là, de la vie de Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne qui a eu une tentation de désespoir. Ça lui travaillait. Elle se demandait si elle serait sauvée. Et le démon, à ce moment-là, pour la tenter, eh bien, est venu la trouver et lui dit apparemment, ça ne sert à rien de faire des sacrifices parce que je sais que tu vas te damner. Et alors, elle lui répondit, si n'importe comment, quoi que je fasse, je suis damné, dans ce cas, c'était pas la peine de te déplacer pour me le dire. Donc, voilà. Donc, on n'écoute pas le démon qui cherche toujours à nous décourager. Autre chose aussi qui peut nous aider dans notre vie spirituelle, c'est d'avoir une vue au moins brève, synthétique, des trois âges de la vie intérieure, pour reprendre le titre du livre du père Garrigou Lagrange. Donc, se rappeler qu'il y a dans notre vie spirituelle des étapes à franchir, et donc quand on passe d'une étape à l'autre, il y a des nuits qu'on doit traverser, donc des périodes plus difficiles. Donc, ne pas s'étonner de devoir passer par ces épreuves, c'est normal. Toute âme spirituelle connaît cela. Donc en gros, si vous voulez, les pères de l'Église et les théologiens distinguent trois périodes, surtout dans la vie spirituelle. Ce qu'ils appellent la vie purgative, donc qui est une vie de purification où on se purge de ses fautes. Donc c'est le commencement de la vie spirituelle, où on lutte peut-être davantage contre le péché. Ensuite, deuxième, bien sûr, c'est toujours schématique, hein. C'est vrai que on explique les choses d'une façon un peu carrée, mais en réalité c'est plus complexe que cela. Mais enfin, en résumé, en tout cas, c'est cela. Donc vie purgative, ensuite la vie illuminative, où on est davantage éclairé par le bon Dieu. Mais on peut espérer qu'on est quand même éclairé par le bon Dieu dès qu'on se convertit. Et puis même une fois qu'on est ensuite éclairé par le bon Dieu, il faut aussi continuer à se purifier. Et malgré tout, donc il y a un découpage que l'on fait généralement dans la vie spirituelle. Vie purgative, vie illuminative, et puis ensuite vie unitive. Donc là, c'est la vie, l'âme qui est totalement plongée en Dieu. Et donc dans ces trois étapes, il y a le passage de la vie purgative à la vie illuminative où on a souvent des épreuves. Et puis ensuite, le passage aussi de la vie illuminative à la vie unitive. Donc en général, si vous voulez, donc les épreuves qui vont affecter une âme qui se purifie au début, ce seront plutôt des épreuves qui vont toucher la sensibilité de l'homme, donc avec plus de tentations sur la vertu de patience en particulier, et parfois la vertu de pureté. Ce sont des vertus qui ont leur siège dans la sensibilité. Et puis alors, les âmes plus spirituelles, après, quand elles rentrent dans la vie unitive, avant d'entrer dans la vie unitive, elles connaissent ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. Et là, elles seront plus tentées dans les facultés spirituelles de l'intelligence. Et donc, elles seront tentées et de la volonté. Et elles seront tentées davantage dans les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Et ceci tout simplement parce que tout l'homme doit être restauré dans la grâce. Donc, Monseigneur rappelait le fait que le péché originel a laissé des séquelles en nous, que toutes nos facultés sont un petit peu déréglées, notre sensibilité est déréglée, et notre intelligence et notre volonté sont déréglées. Elles doivent donc être purifiées. Alors, elles seront purifiées par des épreuves extérieures que le bon Dieu nous envoie, par toutes les épreuves de la vie, quoi. Les souffrances physiques, morales et autres, hein, psychologiques, que l'on peut éprouver. Mais ensuite, eh bien, il arrive que le bon Dieu mette lui-même le fer dans notre âme pour nous purifier. Donc ce sont ces purifications passives que nous ressentons à la fois dans la sensibilité et ensuite dans la partie supérieure de notre âme, dans l'intelligence et la volonté. Afin que tout l'homme soit restauré. Et soit cette restauration se fera avant notre mort, et auquel cas, si elle se fait avant la mort, eh bien, au moment où on mourra, on ira directement au ciel. Et si elle ne s'est pas faite avant la mort, bien elle sera après. Et donc les souffrances du purgatoire sont liées justement à cette purification et de la sensibilité, et de l'intelligence et de la volonté. Donc en gros, si vous voulez, ça c'est les grandes règles de vie spirituelle, donc que développent après donc les différents auteurs, et puis après, bon, en fonction des spiritualités, les descriptions sont un petit peu différentes, mais en gros c'est l'évolution qu'une âme suit lorsqu'elle se rapproche de Dieu. Alors nous, ce qui nous intéresse ici, le point qui nous intéresse le plus, hein, c'est les défauts des commençants, parce que nous commençons dans la vie spirituelle, et donc de voir aussi comment gérer cette purification des sens que nous pouvons éprouver dans notre vie spirituelle lorsque on a le désir d'avoir une bonne vie chrétienne. Alors, les personnes qui n'ont jamais eu de vie spirituelle ne connaissent pas les joies spirituelles et le désir qu'a une âme qui vit en Dieu. C'est ce que dit saint Paul, l'homme animal ne comprend pas l'homme spirituel. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que les gens du monde ne nous comprennent pas et que les catholiques sont toujours considérés comme étant des gens un peu, aujourd'hui, au moins dans le monde où nous vivons, sont un petit peu, ils vivent sur une autre planète. Donc c'est l'impression que ça donne aux gens, tout simplement parce que eux vivent d'une façon purement sensible et même parfois sensuelle, et nous voulons vivre d'une façon beaucoup, enfin nous voulons vivre comme le bon Dieu veut, donc d'une façon spirituelle. Alors les défauts qui vont nous toucher dans la vie spirituelle une fois qu'on commence à goûter les joies spirituelles, eh bien il y aura un premier défaut, ça va être la gourmandise spirituelle. une fois qu'on goûte les consolations du bon Dieu, on en veut toujours davantage, parce que ces consolations spirituelles sont agréables, c'est sûr. Donc un des défauts des commensants, c'est cette gourmandise spirituelle. Donc on s'attache davantage aux consolations de Dieu qu'au Dieu des consolations. On s'attache au plaisir que l'on a, que l'on ressent quand on est là près de Dieu. Et c'est vrai que le bon Dieu, pour attirer une âme, et c'est normal, pour attirer une âme, au début, le bon Dieu lui donne du sucre, et donc lui donne ce goût spirituel. Un goût qui souvent est même sensible, parce que si le bon Dieu lui donnait des lumières plus profondes, plus spirituelles, l'âme ne les goûterait pas parce qu'elle ne vit pas encore d'une façon assez spirituelle. Donc le bon Dieu se met au niveau de l'âme. Et alors, après, une fois que l'âme est attachée au bon Dieu, eh bien, le bon Dieu va commencer à l'éprouver pour faire en sorte que cette âme puisse progresser. Et après la gourmandise spirituelle, eh bien, l'autre défaut que nous pouvons avoir, c'est justement la paresse spirituelle. Lorsque ce goût spirituel n'est plus satisfait, parce que le bon Dieu se cache, eh bien l'âme boude. Elle ne veut plus prier autant, elle se décourage, elle arrête de prier. Donc cette gourmandise spirituelle, lorsqu'elle est insatisfaite, conduit à la paresse spirituelle. Et lorsque cette gourmandise spirituelle est satisfaite, eh bien ça conduit à l'orgueil spirituel. L'âme croit que ça y est, qu'elle est déjà arrivée à je ne sais pas combien de fermes demeures de Sainte Thérèse, alors qu'en fait elle ne fait que commencer dans la vie spirituelle. Donc il y a l'orgueil spirituel qui est lié au fait que, parce que le bon Dieu nous donne du sucre, on est resté là une demi-heure en prière sans presque aucune distraction, et on se dit « Ah, qu'est-ce que je suis bien, moi !» Et bien, si en sortant de la prière, on dit « Qu'est-ce que je suis bien ?», c'est qu'on n'a rien compris, parce qu'en fait, c'est notre orgueil qu'on a nourri, notre amour propre, et c'est nous-mêmes, c'est notre satisfaction qu'on a recherchée, non pas celle de Dieu. Et donc le bon Dieu qui nous aime, eh bien, veut nous faire éviter de tomber dans ces pièges et de gourmandise et de paresse et d'orgueil spirituel. Par conséquent, pour nous faire en sorte que nous progressions spirituellement, il est nécessaire, eh bien, que petit à petit, il enlève un petit peu ces consolations qu'il nous donnait au départ, pour faire en sorte que nous nous attachions davantage à lui-même qu'au bien que nous recevions de lui. Alors l'âme va connaître par conséquent, lorsqu'elle commencera à avoir une vie spirituelle un petit peu, une certaine vie spirituelle, elle va connaître une certaine aridité sensible qui sera prolongée. Donc le signe que le bon Dieu veut nous purifier, c'est lorsque cette aridité sensible est prolongée. Et elle n'a pas forcément de cause extérieure. Bon, c'est certain que si on fait la fête le soir jusqu'à minuit, que le lendemain matin on fait oraison, qu'on a du mal à monter directement au septième ciel, bon, il y a peut-être une cause qui peut être physique, et puis en partie, ça dépend ce qu'on a fait la veille au soir. Mais là, je parle d'aridité sensible prolongée. Si ça reste pendant longtemps, eh bien, si on est longtemps dans cette aridité, c'est le signe que le bon Dieu veut nous faire progresser. Premier signe, mais il faut les trois signes, hein. Ce signe n'est pas suffisant. Le deuxième signe, ensuite, c'est qu'on garde malgré tout une grande soif de Dieu et la crainte de lui déplaire. Parce que si c'est une aridité sensible prolongée qui fait que le spirituel ne nous intéresse pas, eh bien, en fait, c'est plutôt de la tiédeur. Ce n'est pas de la sécheresse spirituelle, c'est de la tiédeur. La tiédeur, c'est autre chose. Donc, la sécheresse spirituelle, c'est lorsque l'âme est aride, a cette aridité, mais continue à avoir la soif de Dieu, continue à avoir la crainte de déplaire au bon Dieu. Et puis ensuite, alors le troisième signe, c'est que l'âme en ce moment-là a souvent beaucoup de mal pour la méditation et plus de facilité pour la contemplation. Donc l'âme, le bon Dieu veut parler à l'âme en fait d'une façon maintenant plus différente, plus profonde. Et par conséquent, l'âme qui est habituée dans ses rapports avec Dieu d'avoir... de prier selon certaines prières qu'elle récitait habituellement, ou elle avait une certaine manière de faire son oraison, et elle ne se retrouve plus dans sa manière de faire oraison parce que ça la fatigue, enfin, elle ne se sent pas à l'aise. Et bien, c'est le signe que le bon Dieu maintenant veut lui parler peut-être d'une façon plus profonde. Donc lorsque ces trois signes sont conjoints, et bien c'est le signe que le bon Dieu purifie notre sensibilité. Et donc, il ne faut surtout pas, à ce moment-là, tout arrêter. Il faut au contraire continuer. Et comme je vous l'ai dit, lorsque le bon Dieu conduit une âme dans cette aridité sensible, eh bien, il n'est pas rare que les personnes aient des tentations violentes, soit contre la pureté, soit contre la vertu de patience, puisque ce sont des vertus qui ont leur siège dans la sensibilité. Et donc l'âme cherche, peut chercher un dérivatif justement dans les biens sensibles, parce qu'elle est frustrée, et puis également ce sentiment d'insatisfaction eh bien, la conduit à l'impatience. Alors, quelles règles maintenant suivre alors pour savoir comment se comporter dans ces circonstances-là? Eh bien, tout d'abord, patienter. Patienter et attendre. C'est ce que dit Sainte Élisabeth de la Trinité. Ah, je voudrais pouvoir dire à toutes les âmes quelle source de force, de paix et aussi de bonheur elles trouveraient si elles se contentaient à vivre en l'intimité de Dieu présent en notre âme. Seulement, elles ne savent pas attendre. Si Dieu ne se donne pas d'une façon sensible, elles quittent sa sainte présence. Et quand il vient à elles armées de tous ses dons, il ne trouve personne. L'âme est au dehors, dans les choses extérieures. Elle n'habite pas au fond d'elle-même. Donc, souvent, on manque de patience et donc on arrête de prier. Et alors, à ce moment-là, bien sûr, quand le bon Dieu veut nous parler, on n'est plus à l'écoute parce qu'on est trop à l'extérieur. Et Toller, maintenant, T-A-U-L-E-R, notre mystique, dit à son tour, « L'âme qui connaît cette épreuve doit faire ce qu'a fait la cananéenne, aller à Jésus et crier à haute voix, c'est-à-dire avec un ardent désir, « Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi. » Mais il arrive que notre Seigneur, comme pour la cananéenne, fasse comme s'il n'entendait pas, ou comme s'il ne voulait pas nous exaucer. Mais c'est alors qu'il faut redoubler notre demande. « Ah, mes enfants, » dit Toller, combien alors le désir dans le fond de l'âme doit devenir plus vif et plus empressé. Même si Dieu refusait le pain, même s'il déniait la qualité d'enfant, il faudrait lui répondre comme la cananéenne. Ô Seigneur, il arrive cependant parfois que les chiens soient nourris des miettes qui tombent de la table de leur maître. Et alors notre Seigneur nous répondra à son tour, au jour et à l'heure qu'il s'est fixé, ô femme, ta foi est grande, que ce qui t'arrive... que ce que tu as cru t'arrive, que ce que tu veux te soit accordé. Donc, garder la patience dans les périodes plus difficiles. On n'est pas des anges. C'est sûr que si on voyait le bon Dieu, on ne serait pas distrait, mais comme on ne le voit pas, bien... ouais. Croire, c'est accepter de ne pas voir. Et puis alors, parfois, dans ces périodes, eh bien, toute notre prière consistera à chasser les distractions. Oui, c'est comme ça. La nature humaine est ainsi faite. Et plusieurs aussi connaissent déjà cette histoire-là, mais pour celles qui ne connaîtraient pas, je la raconte. Cette religieuse qui avait une réputation d'être sainte hein, dans son couvent. Et alors, chaque année, elles avaient leur retraite annuelle. Et cette année-là, donc, le prêtre qui prêchait la retraite, et tu savais que cette religieuse était une religieuse vraiment très exemplaire et très... Alors, quand il l'a vue, il a posé quelques questions sur la manière dont elle se mettait en prière et ce qu'elle disait au bon Dieu dans la prière. Et alors, il dit, ben moi, quand je me mets en prière, je commence par dire, je m'en fous. Ça commence bien, hein. Et puis après, enfin, qu'est-ce que vous dites encore au bon Dieu dans votre prière? Enfin, qu'est-ce que vous dites dans votre prière? Ah ben, je dis encore, je m'en fous. Bon. Et puis quoi encore? Ben, je dis encore, je m'en fous. Apparemment, c'était sa seule prière, c'est dire je m'en fous. Alors après, demande des explications au prêtre, et le prêtre lui dit, ben oui, vous comprenez, dès que je me mets en prière, à s'occuper du linge, elle voit tout le linge qu'elle n'a pas fait, qu'elle aurait encore dû faire, elle dit, je m'en fous. Je m'en fous. Afin de pouvoir mieux être présente à au bon Dieu. Donc voyez que c'est comme ça. Et à l'inverse, voyez, une personne se vantait auprès de saint François de Sales qu'elle n'était jamais distraite dans ses prières. Alors saint François de Sales dit, vous n'êtes jamais distrait dans vos prières? Ah, d'accord, vous avez de la chance. Alors vous allez me dire, un Notre Père en entier,
Et si vous êtes capable de dire à notre Père en entier, je vous offre mon cheval. Alors il commence, notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Et la selle avec. C'est comme ça. Donc vous voyez, la pauvre nature humaine. Ensuite, vu les difficultés dans la prière, eh bien, se contenter d'un regard affectueux et tranquille vers Dieu. Donc il ne s'agit pas de parler beaucoup, il s'agit de se reposer en Dieu. Donc pas de contention, pas de tension nerveuse ni de crispation, parce qu'on ne trouve plus le bon Dieu comme avant. Parce que plus on se tend, et puis bien sûr moins on arrive à avoir cette paix de l'âme, et donc moins on peut vraiment s'unir au bon Dieu. Là, je vous dis un petit peu ce que disait une religieuse qui s'adressait à ses, une supérieure de couvent qui s'adressait à ses religieuses. Ce que nous pouvons parfois ressentir aussi dans notre vie spirituelle. Nous disons, je suis pleine de distractions, de misère. Avant, je trouvais Dieu un peu, maintenant c'est fini, le Seigneur ne me regarde plus. Je suis trop misérable, il ne me regarde plus. Quand nous avons ces pensées, elles sont de nous. Elles sont même très souvent du démon. C'est lui qui nous suggère toute espèce de pensée, toute espèce de sentiment troublant. Il nous faut nous réjouir de tout ce qui nous diminue, surtout à nos propres yeux. C'est cela qui fait la place à Dieu. Peut-être ne serez-vous pas médiocre parce que vous commencez à comprendre que vous l'êtes. Le jour où vous aurez compris que vous êtes absolument incapable, vous vous ouvrirez à Dieu et Dieu viendra en vous. Souvent, nous faisons des progrès précisément parce que nous ne les voyons pas. Ça, c'est aussi une règle de la vie spirituelle, et puis c'est aussi lié à notre nature humaine. On voudrait savoir où on en est, enfin, quels sont les pas qu'on a franchis, les pas qui resteraient à franchir. Mais le bon Dieu est un Dieu caché, donc nous ne le savons pas. Et justement, peut-être que nous faisons des progrès quand nous ne nous en rendons pas compte. Parce qu'au moment où on s'en rend compte, eh bien, souvent on perd le fruit de ces progrès, parce qu'on perd en vanité, en orgueil, le peu de bien qu'on a pu faire. L'oraison n'est ni une affaire de sentiment, ni une affaire d'intelligence. Ce n'est pas voir, comprendre, sentir, savourer. Cela peut aider à l'oraison. Quelquefois, cela empêche beaucoup. On veut voir, sentir, toucher, qu'on est content de Dieu, content de soi, content des autres, et aussi que les autres sont contents de soi. Croire, aimer surnaturellement, c'est accepter de ne pas voir, de ne pas comprendre. Le jour où vous comprendrez, ce n'est plus la foi, c'est la possession de Dieu. Mais Dieu veut que nous vivions de foi. Quand vous conscientirez en toute chose à ne rien voir, à ne rien sentir, à ne rien comprendre, immédiatement, vous monterez au sommet des cieux. Donc, c'est ce que disait donc, cette supérieure qui s'appelait Mère Marie-Madeleine Lyonnais, qui est morte en 1965. Elle disait ça à ses religieuses en janvier, le 31 janvier 1936. Voilà. Donc c'est un peu quelques règles que je vous donne. Et puis enfin, alors pour terminer, ce que je vous disais tout à l'heure sur les retours sur soi, donc éviter de trop revenir sur soi. Je vous lis quelques auteurs. Hein. Les Portes du Silence, l'auteur des Portes du Silence. Ne rappelez, ne ravivez aucun souvenir mauvais. Bon, sinon, la compunction dont on a parlé à midi, mais donc ça veut dire qu'on se rappelle d'une façon, je dirais, globale, et non pas après trop singulière. Ce n'est pas pour se déprimer. Le mal regretté est pardonné. La générosité de l'amour présent répare le passé. Oubliez-en les données concrètes. Il suffit de vous tenir devant Dieu, bénéficiaire de son infinie miséricorde. Le mal est un néant. À quoi bon s'en souvenir ? Pensez seulement à la grâce qui vous a sauvé, à ses rejaillissements éternels. Dieu a tout détruit. Il ne collectionne pas les néants. Gardez pour lui un cœur filialement contrit, donc c'est ce dont on parlait à midi, paisible et tendre. C'est cela la compunction. Vous voyez ? La compunction, ce n'est pas la tension. La compunction, c'est ce cœur contrit, paisible et tendre. Ne parlez pas de vous-même à vous-même. Des personnes d'un âge parfois, enfin, pas, qui parlent toutes seules, mais donc, ce n'est pas votre cas. Ne parlez pas de vous-même à vous-même. Les moments d'examen sont rares et brefs, quelques minutes à midi et le soir. Hors de là, ne pensez à vous, ni en bien, ni en mal. Donc ça, on l'avait dit déjà tout à l'heure. Quand vous songez à vous, votre image si grossière se substitue dans le miroir de votre âme à la très pure beauté de Dieu. Sainte Élisabeth de la Trinité, maintenant. Il me semble que l'âme la plus faible, même la plus coupable, est celle qui a le plus lieu d'espérer. Et cet acte qu'elle fait pour s'oublier et se jeter dans les bras de Dieu, le glorifie et lui donne plus de joie que tous les retours sur elle-même et tous les examens qui la font vivre avec ses infirmités, tandis qu'elle possède au centre d'elle-même un sauveur qui vient à toute minute la purifier. Le Père Calmel, maintenant, dans les mystères du royaume de la grâce. Il dit, « Une âme prise par Dieu éprouve une vive horreur de ce que le Père Clérissac appelait le regard réflexe. Il dénonçait en ces termes le défaut mortel d'une psychologie moderne qui ramène l'âme sur soi, lui donne l'habitude de se regarder sans détachement, l'agite, la trouble, avec la sotte préoccupation d'examiner quelle distance elle aura parcourue sur la voie de raison. L'un des effets de l'action de l'Esprit-Saint dans une âme est de lui donner l'habitude du regard direct sur Dieu et ses mystères. » Et oui, vous ne pouvez pas à la fois regarder Dieu et vous regarder vous-même. Donc c'est le bon Dieu d'abord qu'il faut regarder. Après, bien sûr, quand on regarde Dieu, on revient sur soi pour voir ce qu'on a à corriger. Mais je dis, ça se fait, je dirais, rapidement. Et ce n'est pas toujours en se regardant soi qu'on va progresser. Et c'est ce qu'il dit après. Non que l'âme devienne inconsciente et perde la lucidité sur soi-même, mais elle n'aperçoit ses propres misères et infirmités que dans la lumière de Dieu. Donc il faut voir notre âme comme le bon Dieu la voit. Elle implore sa pitié et reste confiante malgré tout. Le bon Dieu ne se retirera jamais le premier. Il n'abandonne pas s'il n'a pas été abandonné. Un autre auteur, mais là j'ai glané ça et là, mais c'est pareil, on pourrait prendre d'autres auteurs hein, mystiques, mais c'est pour vous dire ce que tous les saints, enfin tout ce qui était le plus proche de Dieu, voilà ce qu'ils nous disent. Le père Liberman disait pareil, « Les retours qui rendent l'âme paisible sont les retours sur Dieu et non les retours sur soi. » Sainte-Thérèse Couder, fondatrice du Cénacle. Nous ne devons plus nous occuper de notre moi que pour le tenir tourné vers Dieu. Voilà, Saint-Antoine, pour bien prier, il ne faut pas savoir que l'on prie. Et oui, dès qu'on se regarde prier, on ne prie plus. Hein. Donc, c'est ce que dit Saint-François de Sales. Donc, je ne cite plus que Saint-François de Sales, et enfin, on terminera par Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Saint François de Sales, il y a des esprits actifs, fertiles et foisonnants en considération. Il y en a qui sont souples, repliants et qui aiment grandement sentir ce qu'ils font, qui veulent tout voir et tout éplucher ce qui se passe en eux, retournant perpétuellement leur vue sur eux-mêmes pour reconnaître leur avancement. Il y en a d'autres encore qui ne se contentent pas d'être contents s'ils ne savourent pas leur contentement et sont semblables à ceux qui sont bien revêtus contre le froid et ne penseraient pas l'être s'ils ne savaient combien de robes ils portent, ou que voyant leur coffre-fort plein d'argent, ne penseraient pas être riches s'ils ne connaissaient pas le compte de leurs écus. Or, tous ces esprits sont ordinairement sujets d'être troublés en la sainte oraison. Car si Dieu leur donne le sacré repos de sa présence, ils le quittent volontairement pour voir comment ils se comportent en lui, s'inquiétant pour savoir si leur tranquillité est bien tranquille. Au lieu d'occuper doucement leur volonté à sentir les douceurs de la divine présence, ils emploient leur entendement à discourir sur les sentiments qu'ils ont. Comme une épouse qui s'amuserait à regarder la bague avec laquelle elle aurait été épousée, sans même voir l'époux qui la lui aurait donnée. Il y a une grande différence entre s'occuper en Dieu, qui nous donne du contentement, et s'amuser au contentement que Dieu nous donne. Donc c'est le bon Dieu qu'il faut regarder. Et puis alors enfin, donc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans l'histoire d'une âme. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à échapper à leurs propres complications. Ils se laissent ligoter par mille liens insignifiants parce qu'ils ne s'exercent pas suffisamment à aimer. Leur erreur est qu'ils ne cherchent pas à aimer sans s'occuper de leur caractère. Quels remèdes doivent-ils employer pour s'en sortir ? Tant qu'ils s'occupent de leur psychologie, ils restent ficelés en eux-mêmes. Qu'ils se préoccupent d'abord d'aimer, qui se rendent attentifs autant que possible au visage de l'aimé, de l'être aimé, qu'ils méprisent les piqûres d'amour-propre et l'attendrissement sur leur cas, bref, qu'ils fassent abstraction d'eux-mêmes, et alors leur cœur se fortifiera et ils iront de victoire en victoire. Donc toujours éviter le repli sur soi. Voilà. Donc en conclusion, donc le bon Dieu veut qu'on vive de foi, d'espérance et de charité. La vie chrétienne, c'est une vie théologale. Et croire, c'est accepter de ne pas voir. Et espérer, bien on espère des biens que nous ne possédons pas encore. Et ensuite, bien sûr, la charité. Voilà. Donc, maintenant, bon courage. Tant qu'on reste dans les principes, ça va, mais après, il n'y a plus qu'à mettre en pratique.